cinema.
Ma chi è che ha fatto?
Nel momento.
Un cinema che toujours innove, che experimenta e che solo reflète son temps.
City as a character within the movie. Now would it
say? Il mondo tourne très vite, je crois. En général, assez vite. Oui. Mais moi, je trouve pas. Je trouve que les autres, ils tournent assez lentement.
Cinema. Cinema, oui, je sens. Je suis cinema.
C'est l'heure du Sud Mag, magazine quotidien en direct et en public depuis le Théâtre de la Criée pour la 23e édition du Sud, Festival international de cinéma. Troisième journée de festival pour l'équipe de la Grenouille en immersion périscopique dans les salles obscures et les couloirs bruissants pour vous parler des films avec celles et ceux qui les réalisent, qui les produisent ou qui les programment. Dedans, dehors, de la liberté de l'esprit et de sa résistance à l'enfermement, c'est le fil rouge de ce troisième magazine, avec aujourd'hui comme invité Nazim Djemaï, réalisateur de À peine ombre, qui devrait en principe rejoindre ce plateau, du moins on l'espère, Claire Doyon pour le film Pénélope, qui est avec nous, merci Claire d'être avec nous sur ce plateau, et Régis Sauder, réalisateur de Être là, merci aussi d'être présent sur ce plateau. Trois films dans lesquels il sera diversement question de rapport entre claustration et échappé. Trois films passe-muraille qui questionnent les limites pour, au passage, tenter de s'en affranchir. On accueille aussi sur ce plateau Caroline Cacaval, réalisatrice, cofondatrice avec Joseph Cesarini de Lieux Fictifs, structure de production marseillaise bien connue. Sur les 3-8 d'ailleurs, à l'occasion de la toute récente thématique Zonzon sur les pratiques artistiques pour des publics sous main de justice, on avait évoqué son film « Ce qui nous arrive », réalisé en 2011 dans un studio de cinéma créé dans la prison des Baumettes à Marseille. Mais ce n'est pas de ce film dont il est question maintenant, mais d'un prix, le prix Renaud Victor, doté par le CNC et décerné par les détenus du centre pénitentiaire de Marseille. On en parle avec Caroline Cacaval dans un instant, le temps d'une chronique de Laure Dieudonné. Laure, bonjour.
Bonjour Xavier.
C'est justement de ce prix Renaud Victor dont je crois tu vas nous parler.
Oui, voilà, exactement. Donc j'ai rencontré Pierre et Lola pour qu'ils me parlent du prix Renaud Victor puisqu'ils sont en train d'y travailler et donc de son organisation pendant cette semaine au FID.
Les extraits du Périscope.
Pierre Poncelet, je travaille pour l'association Lieux Fictifs. C'est une association qui mène des ateliers de formation et d'expression visuelle et sonore au centre pénitentiaire de Marseille. Et moi, j'y interviens en tant que réalisateur et je m'occupe aussi de l'événement que nous avons en partenariat avec le FID et la faculté d'Aix-Marseille autour du prix Renaud Victor. Lieux Fictifs avait déjà travaillé avec le FID il y a quelques années et suite à cette première expérience, ils nous ont recontactés donc en 2010 pour qu'on discute d'une possibilité de travailler ensemble et puis au fil des discussions et des réflexions, ça a donné cette proposition qui était à la base donc de pouvoir diffuser une sélection de films dans les Baumettes et puis Jean-Pierre M a ouvert cette proposition jusqu'à proposer la constitution de ce jury. Alors, il y a une première présélection qui est faite par l'équipe du FID qui nous soumet 10 films et sur ces 10 films, on a une petite marge de manœuvre puisqu'on en retient 8. Et c'est une sélection que je fais avec les étudiants du master professionnel métier du film documentaire de la fac d'Aix-en-Provence qui sont associés à ce projet.
Yeah man, Guatemala está en la casa. Zaragoza representando el niño de la selva. Respeto a todos los chapines, yo.
Donc, je suis Lola, je suis étudiante en Master 1 dans les métiers du film documentaire à Aix. On est 5 dans notre classe à amener des films du FID des années précédentes en fait, tout au long de ces 3 derniers mois pour parler des questions de cinéma et de faire une espèce de sensibilisation au cinéma, surtout tel que le défend le FID, avec à peu près une vingtaine de détenus. Et donc là, pendant le FID, il va y avoir une cinquantaine de détenus qui vont assister donc, durant toute la semaine, donc du lundi au vendredi, à deux séances par jour. Et donc, c'est des films qui sont issus de la sélection compétition française et internationale du FID et qui concourent donc pour le prix Renaud Victor qui va être décerné donc par les détenus. Après, c'est vraiment ceux qui ont envie, qui ont vu tous les films, qui se constituent en jury et qui décernent un prix.
C'est important quand même ce travail de sensibilisation et d'avoir un groupe qui s'équilibre autour de ça, parce que même pour le groupe, voilà, sinon ils peuvent se sentir un petit peu perdus. Et puis c'est très important d'interroger cette question du jugement, parce que évidemment, c'est absolument pas anodin de faire ça dans ce lieu-là. C'est important de travailler sur cette question en amont.
Bah c'est vrai qu'il y a deux choses en même temps, hein, parce qu'il y a le fait d'aller choisir des films au FID dans toute leur sélection des années précédentes. C'est d'autant plus intéressant, une fois qu'on a rencontré les détenus aussi, d'aller chercher des films pour eux. C'est-à-dire que voilà, au début, c'est vrai, le premier film que j'ai choisi, je ne savais pas vraiment, on ne sait pas à qui on s'adresse, donc c'est un petit peu difficile à appréhender aussi par le lieu, par les a priori qu'on peut avoir par rapport aux personnes détenues, etc. Et que finalement, quand on arrive, c'est la vie, c'est normal, c'est simple, c'est une expérience humaine qui est très forte. Et puis ça les intéresse. C'est-à-dire que dans tous les cas, même s'ils n'ont pas aimé les films, ce qui est compréhensible, mais il y a vraiment des questions de cinéma qui se soulèvent. De manière, nous, notre objectif aussi dans l'atelier, c'est pas forcément de présenter des films qu'on aime. Forcément, on les aime, mais d'une manière particulière, parce que si, parce que ça. Ça permet aussi de nous-mêmes nous positionner par rapport à des films, de défendre des films qu'on n'aime pas forcément, ou des auteurs, ou des partis pris. Et donc, eux, c'est pareil, quoi. Hein, des fois, il y a vraiment des films qu'ils n'aiment pas, mais ils reconnaissent que vraiment, il y a telle qualité ou il y a tel parti pris.
Cette année, sur les 8 films qu'on présente, on reçoit 6 réalisateurs. C'est primordial que le film puisse être accompagné dans la mesure du possible. Quand le réalisateur est là, c'est quelque chose de très important pour cet événement, puisque déjà les personnes détenues qui participent à cet événement apprécient énormément que des gens se déplacent et viennent à leur rencontre. Et puis évidemment, qui est mieux placé pour parler d'un film que le réalisateur? Personne. Donc c'est très bien qu'il soit là.
Oui, donc je voulais aussi préciser que la musique qu'on entend sous les voix, c'est un extrait de la bande sonore du film Hasta el Sol Tiene Manchas de Julio Hernández Cordón, qui est un film de la sélection du prix Renaud Victor et de la compétition internationale.
Et c'était la chronique Périscope de Laure. Merci Laure. Caroline Cacaval, bonjour.
Bonjour.
Toujours à propos de ce prix Renaud Victor, on entendait à l'instant Pierre Poncelet. Peut-être pour préciser finalement ce prix en hommage à Renaud Victor, mais quelques mots pour rappeler qui était Renaud Victor.
Alors Renaud Victor était un cinéaste que j'ai rencontré avec José en 1989 à la prison des Baumettes. Il cherchait à faire un film documentaire en immersion dans un établissement pénitentiaire. Et en fait, son choix s'est arrêté aux Baumettes. Et on est parti dans cette aventure tous les trois, qui a duré assez longtemps, puisqu'elle a duré 2 ans sur la phase de tournage. Et après 1 an de montage. Donc c'est une rencontre qui est très forte à la fois. Bon, nous, personnellement, ça a été assez déterminant puisque c'était il y a plus de 20 ans, hein, 22 ans. C'était à la fois la rencontre avec le cinéma. Moi, j'avais fait des études aux Beaux-Arts, je travaillais sur l'installation vidéo et je n'avais pas du tout encore imaginé travailler dans le cinéma. Donc c'était une rencontre avec le cinéma, un cinéma aussi particulier, un cinéma documentaire, un cinéma... où la personne, le filmeur s'engage, on va dire, physiquement aussi dans le lieu de tournage, dans le temps aussi, et dans un rapport aussi très fort entre le filmeur et le filmé, et dans une réciprocité aussi de relations entre ces deux-là. Voilà, donc ça a été, c'est vrai, un moment extrêmement fort, et c'est un peu aussi à partir de ce moment qu'a commencé à germer l'idée, un peu folle à l'époque, d'imaginer un lieu permanent de cinéma dans cette prison qui avait accueilli aussi longtemps un film, un travail, on va dire, filmique au quotidien.
Avec quel rapport avec l'administration pénitentiaire? Parce que j'imagine que c'est pas simple, ce type de projet qui est à la fois réaliser un film dans une prison, mais en même temps travailler avec les détenus, établir une permanence dans ce lieu, ça a peut-être été une certaine négociation.
Alors, je crois qu'un des points centraux, c'est la question du temps. Et ça, c'est, je crois, toujours la question centrale autour de ce projet. Il y a eu beaucoup de temps. Et le temps est un élément important de part et d'autre. À la fois, je pense qu'il est important dans un processus de création, dans la relation avec les personnes détenues, pour les personnes détenues, pour les artistes et les réalisateurs qui travaillent à l'intérieur, et aussi pour l'institution. Je pense que c'est quelque chose qui se construit dans la confiance, et la confiance, elle se donne pas, hein, elle se prend au fur et à mesure, elle se construit. Hein, et ça, c'est vraiment l'élément central, en fait, de ce projet, quoi, voilà. Après, bon, c'est beaucoup de temps, 22 ans, mais enfin, bon, on a franchi différentes étapes, et déjà, dès 1997, un lieu permanent avait été construit à l'intérieur de la prison, qui est le lieu dans lequel nous sommes, maintenant, depuis 97.
Alors, sur la manière dont ce prix Renaud Victor s'organise concrètement chaque année en partenariat avec le FID, c'est une première présélection, je crois, de 10 films à partir duquel il y a une seconde sélection de 8 parmi ces 10. Quels sont les critères de ces sélections, en fait?
Alors, c'est Jean-Pierre nous fait cette proposition de 10 films, donc c'est vrai que je pourrais pas répondre à sa place sur le choix qu'il porte, hein, comment il construit ce choix sur ces 10 films. Après, nous, on a la possibilité d'en extraire 2, donc je pense que c'est bien. Bon, cette année, ça s'est passé avec le film de Régis, qui était parmi la sélection, et vraiment, c'est un film qu'on a énormément apprécié, hein. Mais on en a discuté, on souhaitait ne pas le diffuser dans cette sélection, parce que c'était vraiment très très proche de situations qu'il vivait, qui avait peu de temps entre la fin de ce film et cette projection, et que c'était peut-être quelque chose qui devait se faire dans un autre temps, voilà. Donc c'est des choses comme ça, hein, enlever 2 films sur les 10, c'est pas une question de censure, hein, c'est une question à un moment donné. Voilà, il se fait que pour le film de Régis, c'était cette raison-là. Et puis voilà, puis après, il y a eu le choix aussi d'un autre film dont j'ai pas le souvenir du nom, mais qui a été enlevé, qu'on a préféré choisir les 8 autres. Voilà.
Dans cette sélection, de toute façon, j'imagine qu'elle n'est pas focalisée sur l'univers carcéral. Au contraire, ce n'est pas vraiment ça qu'attendent les détenus. On se souvient par exemple que l'an dernier, c'est le film de Rania Stéphan, Les 3 disparitions de Souad Hosni, qui avait obtenu ce prix Renaud Victor, un film réalisé en Égypte et à partir d'éléments filmiques, des comédies musicales égyptiennes. Des films qui font débat au Baumettes quand ils sont visionnés par les détenus, qui suscite du débat, de la discussion.
Oui, bon, Claire qui est présente peut-être en parlera mieux encore, mais le principe, c'est effectivement de voir des films, mais aussi d'en parler, de construire vraiment un dialogue, un échange, alors qu'on a la chance d'avoir les réalisateurs aussi avec présence, et c'est, je pense, d'une grande richesse des deux côtés, mais ça, c'est aussi un principe de manière générale, c'est-à-dire de construire aussi une réflexion, son point de vue, et de le construire aussi collectivement, parce que des fois, on a une sensation impulsive, où on se dit, ah, c'est bien, je suis touchée, je suis pas touchée, mais en écoutant les autres, d'un coup, on se met à découvrir d'autres choses, et c'est vraiment des films qui nous posent des questions, et particulièrement, je trouve, l'exigence de la sélection que fait Jean-Pierre ici, dans ce festival, apporte vraiment ça, quoi. Voilà.
Claire Doyon, vous avez, j'imagine, accompagné la projection de votre film. Vous avez pénétré cette prison des Baumettes. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Quel contact vous avez eu avec les détenus, avec les spectateurs de ce film?
Bonjour. Pour moi, c'était une expérience très forte et assez violente aussi, parce que c'était la première projection du film de Pénélope, et donc elle a eu lieu en prison, et les spectateurs étaient ces 40 personnes détenues. Et quand je suis arrivée avec le DVD, très en retard en plus, sous la chaleur, etc., en passant toutes les grilles, et je voyais le petit nom de Pénélope. Et donc le film de Pénélope raconte l'histoire, le voyage de ma fille en Mongolie. Et ma fille est autiste, donc il y a tout de suite la question de l'enfermement, de la liberté qui s'est posée et qui était très forte pendant le débat. Et le débat était très animé, les questions fusaient, il faisait très chaud, c'était une expérience très forte. Et à la fin du débat, je disais, je sais pas, on me serrait la main, je disais aux détenus bon courage, force, enfin voilà, des mots comme ça. Et il y a quelqu'un qui m'a dit non, mais nous on est là pour un temps donné. mais Pénélope, c'est pour la vie, donc on va retrouver notre liberté en sortant d'ici, mais pas Pénélope. Enfin, il y avait quelque chose de très émouvant autour
d'une complicité
de cette question.
Sur cette question de l'enfermement et du refus finalement de l'enfermement, de l'envie d'aller au-delà de cet enfermement. Et c'est bien l'objet, le sujet du plateau de ce soir en votre compagnie et le point commun entre chacun de vos films. Dans un instant, on va évoquer avec Régis Sauder, Être là. Juste le temps d'écouter quelques notes de musique, mais vous allez voir, ça a peut-être un petit rapport avec la question, puisqu'il s'agit de Johnny Cash, Folsom Prison Blues.
I hear the train a-coming, it's rolling around a bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But that train keeps a-rolling on down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing,
Johnny Cash, Folsom Prison Blues, juste quelques notes comme ça pour rester dans le ton. On va maintenant aborder Être là, un film de Régis Sauder, un film en compétition française. Et c'est une plongée dans la vie quotidienne des Baumettes à laquelle le spectateur est convié. Plus précisément dans le service médico-psychiatrique de cet établissement, on y suit le travail d'une équipe soignante et l'on assiste à une série d'entretiens avec des détenus. Images noir et blanc impeccables, son, montage, une construction extrêmement élaborée, un soin du détail parfois exacerbé qui va très très au-delà du reportage documentaire pour faire de ce film un vrai grand moment de cinéma. Un film qui commence par une sorte de déclaration d'indépendance de ce personnel soignant, toujours attentif à ne pas cautionner l'administration pénitentiaire, mais à affirmer sa mission de soin. Régis Sauder, bonjour.
Bonjour.
Comment est-ce que vous avez rencontré cette équipe du SMPR, Service Médico-Psychiatrique Régional ?
Alors cette rencontre, elle suit 4 ans de travail en psychiatrie, en milieu ouvert. J'ai travaillé, moi j'ai animé des ateliers pendant 4 ans au CATTP Loublaï, qui est un lieu d'hôpital de jour, qui dépend de l'hôpital Édouard Toulouse. Et c'est la rencontre avec une équipe soignante qui avait à cœur la question du sujet pensant et agissant. Donc moi j'ai animé des ateliers cinéma où on a pendant 4 ans comme ça, avec un groupe qui m'a suivi sur ces 4 années, on a fait 4 films différents. Ces films, ils avaient une vocation thérapeutique, mais c'était aussi un endroit de réflexion cinématographique pour moi. C'était un endroit de liberté. Et ensemble, avec ces patients, on a réfléchi au cinéma. Moi, c'est une expérience qui, je crois, a changé quelque chose de profondément, de très profond dans ma manière de travailler. J'ai eu envie de continuer à explorer cette question de la maladie mentale. Aujourd'hui, on sait qu'en psychiatrie, il y a de moins en moins de lits et qu'une partie des malades se retrouvent soit dans la rue, soit malheureusement en prison, de plus en plus nombreux. Ces soignants avec qui je travaillais étaient très proches des soignants du SMPR des Baumettes. On va dire que c'est la même famille. C'est des gens qui ont justement à cœur de réfléchir à la maladie en partant du sujet, en réfléchissant à comment le sujet il peut être lui aussi pensant, agissant, et à ne pas réfléchir avant tout aux symptômes. La rencontre avec Catherine Paulet qui dirige le service est un moment évidemment fort d'élaboration et de réflexion autour du projet de film et de sa possibilité. Donc j'ai passé un long temps avec ses soignants pour envisager l'idée du film, et au terme d'un long, presque une année de repérage, on a décidé collectivement de faire ce film, de construire ce film ensemble.
Une construction du film qui alterne des entretiens avec les patients, avec les détenus, et des traversées de l'univers de la prison. Vous respectez l'anonymat des détenus, on ne voit pas leur visage, ils ne sont pas nommés. pas de reflet dans les miroirs qu'il décore en séance de travaux manuels. Alors peut-être quelques mots sur votre éthique de travail. Quoi dire, quoi montrer, quoi laisser hors champ? Comment faire ce film et en même temps respecter l'intimité de ces personnes dans le cadre en plus d'entretiens médicaux?
Le film, c'est avant tout un film sur le travail. Donc quand on fait un film sur les cheminots, on filme les cheminots. Là, c'est un film sur des soignants, donc il était question de filmer les soignants. On les filme pas en train.
Mais vous filmez aussi les malades.
Bien sûr, je les filme pas en train de bavarder. Je les filme en train d'écouter. C'est une écoute active et intense qui permet justement la possibilité de penser la maladie, de penser sa place. En l'occurrence là, au sein des Baumettes. Donc le film, il est construit sur ces soignants et en l'occurrence ces femmes. Il y a aussi des hommes aux Baumettes. J'ai choisi de travailler sur ces femmes soignantes parce que j'ai ressenti, moi, en arrivant au SMPR, un lieu féminin. Et je trouvais que c'était intéressant de travailler sur la dualité entre le masculin hors champ et le féminin dans l'écoute. Parce que je crois qu'il y a quelque chose qui revient comme ça de façon incessante sur une forme de réflexion autour du genre aussi. Donc les patients, ils sont présents.
Il y a un détenu qui est assez incrédule au moment où la personne se présente comme étant docteur. Et en fait, ce détenu n'imagine pas qu'une femme puisse être docteur dans une prison.
Oui, je crois qu'il y a une certaine forme de sidération parce que c'est effectivement des jeunes femmes qui ne sont pas, pour la plupart, il n'y a pas d'uniforme évidemment, elles sont soignantes. Ce que je voulais préciser, c'est que pour moi, que les patients, évidemment, ils sont très présents. Ils sont présents dans le regard de ces soignantes. Ils sont présents par leurs paroles qui évoquent à la fois la maladie, l'enfermement dans la maladie et aussi évidemment la prison, qui elle aussi est hors champ, c'est-à-dire que on est sur la question du lien d'humanité qui est nécessaire aux soins. Et c'est vraiment ça le cœur du film.
Dans ce film, vous ne filmez pas les cellules. C'est le respect aussi de l'intimité des détenus qui fait que vous ne filmez pas l'intérieur de ces cellules. Régis Sodel.
C'est une volonté de ne pas tomber dans la fascination du lieu. C'est pas un film sur la prison, c'est pas un film sur le personnel pénitentiaire, c'est un film sur le soin et comment ce soin peut se construire dans une définition précise de la mission des soignants et dans une définition précise de leur statut, c'est-à-dire que ces soignants sont du personnel de l'administration de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille. Donc pour les patients, c'est important de savoir qui est qui, et le soin nécessite ça, non pas que ces gens travaillent avec l'administration pénitentiaire, mais c'est pas la même mission. Donc l'idée de ne pas filmer aussi, de ne pas incarner la maladie mentale, c'est aussi, il y a quelque chose de fascinant dans le fou. Moi, dans le fou au sens de symbolique, hein, imaginaire, et je crois qu'il y a quelque chose de très dangereux. Je crois que c'est important de réfléchir à ce qu'on montre. Ce qu'on montre, c'est avant tout une souffrance, et comment cette souffrance, elle peut s'apaiser dans le lien humain. Donc moi, c'est vraiment cette construction précise que je me suis fixée.
Des témoignages bouleversants au cours de ce film. Ce monsieur, par exemple, qui a 35 ans et qui dit « je sortirai à 70 », qui parle de sa maman pleurant, qui raconte qu'en 8 ans, il a passé 5 mois dehors, qui craque en racontant son enfance. La soignante joue son rôle, évite l'empathie. Est-ce que vous-même, vous avez dû parfois un petit peu vous blinder, éviter l'empathie à l'écoute de certains de ces témoignages, parce qu'ils étaient vraiment forts et que vous ne vouliez pas aller dans ce sens, finalement, de l'empathie?
Moi, je crois que le film, il parle de la place de chacun. Être là, c'est aussi ma place de cinéaste dans ce lieu-là. Je crois que c'est important que les cinéastes investissent ces lieux qui nous sont parfois empêchés. Enfin, c'est pas évident d'aller filmer au Baumettes, donc il y a un travail de cinéma au Baumettes.
Mais être là, c'est aussi avoir la distance juste.
Bien sûr, être là, c'est comment réfléchir le soin et comment réfléchir ma place. C'est une réflexion qu'on a vraiment menée avec les soignants, avec les patients. Ils savaient très bien où était la caméra, qu'est-ce qui se jouait dans ce trio, parce que dès lors que j'assiste à cet entretien, on n'est plus dans un entretien qui est de l'ordre de quelque chose de confidentiel. Donc après, il n'y a pas de vérité. Moi, je suis pas là pour. Je fais pas un film sur le fonctionnement du SMPR. Je raconte une histoire sur, encore une fois, cette nécessité du lien et de l'accompagnement. Donc, il s'agit pas de se blinder ou pas de se blinder. Moi, j'ai passé ces 2 ans de travail. C'est un tournage très très court pour des raisons administratives. Donc évidemment, cette émotion-là, on la laisse à la porte de la prison. Moi, c'est des témoignages qui m'ont évidemment accompagné pendant des mois et des mois, et le montage a été long et parfois douloureux. Je crois que ce qui était important, c'était de montrer comment justement ces soignantes font avec certaines de ces déclarations, où se situe la question de la vérité, de la maladie, du rapport à l'écoute nécessaire, qui ne juge pas, parce qu'effectivement, elle le dit très bien, nous, on n'est pas là pour vous juger, on est là pour vous soigner.
Dedans, dehors, un plan décrit le parcours depuis l'entrée jusqu'à son cabinet, pour une de ses soignantes, justement. Le même trajet depuis 10 ans, un courage quotidien réitéré depuis 10 ans. Du coup, ces psychiatres, elles apparaissent presque parfois trop bien, trop sympas, trop justes. C'est presque parfois un peu les madones de la zonzon. Et on sent que votre film, c'est aussi un hommage extrêmement appuyé à leur travail. Mais on voit aussi la part du doute, on sent qu'elles sont sous pression, on sent qu'elles doivent sans cesse réaffirmer leur rôle et leur fonction face à l'administration pénitentiaire, face à la machine à enfermer, dénoncer les culs de basse fosse, par exemple, des quartiers disciplinaires. Être là, de votre part, c'est aussi un acte militant, ce film, à leur côté.
Je crois que le cinéma, il a toujours une... Alors militant, je ne sais pas si c'est militant, mais il a une dimension politique. Cette prise de parole, c'est une prise de parole éminemment politique. Et il ne s'agit pas de sanctifier de les sanctifier, c'est-à-dire qu'elle le dit très bien à un moment, elle dit c'est facile de jouer aux gentils soignants face aux méchants pénitentiaires, mais c'est pas le cas, c'est-à-dire qu'être là, c'est aussi accepter la prison, c'est aussi en grande partie finalement autoriser qu'il y ait des malades mentaux qui y soient, c'est toute la complexité de leur place, c'est-à-dire en étant là, bah forcément ça permet qu'on envoie des malades dans ce lieu qui n'est pas un lieu de soins, mais si elle n'était pas là, qu'adviendrait-il de ces gens qui de toute façon évidemment dans un temps chronique en détention, évidemment c'est pas un lieu de soins, donc leur présence elle est nécessaire. Et évidemment, elle pose question.
Ce film, on l'a entendu tout à l'heure, a eu un grand succès lorsqu'il a été projeté à la prison des Baumettes. Je pense qu'ici, au FID, ça devrait être le cas aussi. Est-ce que vous avez déjà, Régis Sauder, des options de distribution de ce film ?
Alors, le film, il n'a pas été projeté à la prison des Baumettes. Justement, il a été projeté ici au FID hier. Pour l'instant, je pense que justement, on l'évoquait avec Caroline tout à l'heure, c'est un peu frais. C'est un film qui a été tourné l'an dernier à la même époque. Le montage est... On sort de la production du film, et c'est un film qui sortira en salle à l'automne. Voilà.
Être là, de Régis Sauder, en tout cas, si vous voulez le voir, il est projeté tout à l'heure. Dépêchez-vous de venir au Théâtre de la Criée ce vendredi 6 juillet, puisque c'est de venir aux Variétés, pardon, puisque c'est ce vendredi 6 juillet à 19h30 au Cinéma des Variétés. Être là, et on lui souhaite autant de succès, sinon plus, que nous, Princesse de Clèves, votre précédent film. Merci. Merci Régis Sauder. On va maintenant écouter une chronique qui est préparée par Julien Kirsch. Julien qui rencontre les programmateurs de ce Festival international du documentaire. Je crois, Julien, que tu as rencontré Gilles Grand.
Oui, Xavier, bonjour. Effectivement, chaque jour, vous est proposé de rencontrer un programmateur, Gilles Grand, qui est programmateur de l'écran parallèle Les Fils du Son. Aujourd'hui, il nous décrit la portée du cri, justement, She Sings, de Caroline Sacha Coguez et des chaînes Rodeur.
Bonjour, 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 ou bonsoir, bonjour, bonjour, bonjour. Je suis Gilles Grand, en charge de la programmation de l'écran parallèle Les Fils du Son, dans la 23e édition du FID Marseille. Et cette programmation comprend 24 films. Les Fils du Son, c'est une chose sur laquelle je reviendrai plus tard, mais l'idée, en fait, c'était le tout ce qui relie à l'intérieur du son et qui, néanmoins, malgré le fait qu'on suive les fils, n'explique pas les choses. Donc, c'est une sorte de paradoxe, c'est l'idée d'avoir des fils qui nous guident et en même temps, c'est des fils qui ne résolvent pas la question du son. La particularité, en plus, de cette 23e édition, c'est de, comme souvent dans le feed, mais plus particulièrement cette année, il y a beaucoup de films qui se sont déplacés, qui auraient pu être dans l'écran parallèle consacré au son, mais qui se sont déplacés dans les compétitions internationales, dans les compétitions nationales, des films sur le son, sur la musique, assez fabuleux. Par ailleurs, dans l'écran Les Fils du Son, il y a deux films qui sont en compétition premier, ce qui est un grand plaisir, d'autant plus que ça ouvre un large ambitus, une large étendue entre Invisible de Vincent Hiréart et Song Song de Gwendal Sartre, qui sont deux manières d'appréhender le son par deux extrémités assez fascinantes. Mais je ne suis pas là pour parler de ça, parce qu'en fait, nous sommes à la criée. Ça ne s'entend pas, mais nous sommes à la criée. Et en fait, je parle d'un film où elle va crier, enfin, elle commence par crier. Peut-être que vous l'entendez. Donc c'est une jeune fille de dos, jeune fille parce que cheveux longs, de dos, qui crie à trois reprises. Et ce qui compte, c'est en fait la réverbération, l'étendue de sa voix qui part comme ça, qui part loin, 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 loin. Donc elle est face à quelque chose qu'on ne voit pas, mais qui est vaste, qui est très vaste. En fait, nous sommes au Bhoutan. Le Bhoutan, c'est un petit pays coincé entre la Birmanie et l'Inde, au nord de la Birmanie et l'Inde, un peu à l'est du Népal. Donc on est perdu dans les montagnes. C'est une jeune fille qui est perdue dans les montagnes. Et elle a crié trois fois, et elle nous a fait face, tout, soudainement, et... En présentant ce film ce matin, en fait, j'ai évoqué Michael Jackson parce que c'est difficile pour moi de ne pas y penser, cette manière comme ça d'apparaître dans le film de dos, en silhouette, et pour ensuite se retourner. Et ce cri, en fait, qui est une mesure de l'espace acoustique. Et ce qui est très beau, c'est que juste après, on va la retrouver chantant. J'entends une mélodie populaire, une petite chanson, laquelle chante sans parole, je crois. Et en fait, elle est chez elle est sur son balcon. Et ce balcon va devenir sa scène, parce que la caméra va se reculer, et en fait, c'est les habitants du quartier qui vont la regarder chanter à son balcon pendant qu'elle va à ses occupations. Il y a un peu de linge qui pend et tout ça. Et derrière, on voit les vastes montagnes du Bhoutan. Et là, tout est dit. Enfin, le film est lancé, on se dit que ça va être une drôle d'histoire. D'autant que se glisse un plan plus énigmatique encore, puisqu'on on va voir deux moines tibétains, face à une télé. Et ils ont une manière de regarder la télé qui est un petit peu étonnante. Donc là, le petit bip qu'on entend un peu au loin ne fait pas partie ni de la bande-son du film, ni de cette interview. Donc, mais il y a un petit bip au loin, ça. Vous l'entendez peut-être. Enfin, moi, je l'entends, en tous les cas. Vous l'entendez aussi. Donc je vous parlais de ces deux moines qui regardent la télé. Alors, on va dire que le bip, c'est un peu comme le son parasite d'une télé. Et cette lueur de la télévision face à deux moines debout est assez étrange, parce qu'on se dit ils ont une manière de regarder la télé qui n'est pas tout à fait notre manière de regarder la télévision. C'est aussi l'histoire de ce film qui s'appelle She Sings, et en fait un film de Caroline Sacha Cogez, je ne sais pas comment on dit, elle est un travailleur de Danemark, et qu'elle co-signe avec Doshen Roder, qui est la jeune fille qui chante. En fait, ce film, She Sings, vous pourrez le voir à la petite salle de la Criée. Elle va crier dans la petite salle de la Criée à 9h30, le 9 juillet. Et vous suivrez l'aventure de cette jeune fille qui fait une télévision crochet. On disait radio crochet. Donc, qui veut participer à une émission de télévision et gagner un concours pour prouver qu'elle est la meilleure chanteuse de son pays.
C'était Diagonale d'écran, la chronique de Julien Kirsch. On entendait la voix de Gilles Grand qui parlait de She Sings, un film de Caroline Sacha Cogez et Dejen Roder. On est toujours en direct de la Criée pour cette 23e édition du FID, Festival International du Cinéma. Une autre manière d'articuler le dedans, le dehors, les murs et l'horizon, avec maintenant Pénélope, un film de Claire Doyon. Bonjour Claire.
Bonjour.
Pénélope, c'est une très jolie petite fille, aux gestes précieux et graves, mais à l'esprit fragile, replié sur lui-même. Alors sa maman l'emmène en voyage en Sibérie à la rencontre de chamans qui pourront peut-être libérer son esprit de sa peine et de son mutisme. Dit comme ça, on dirait un conte d'Orient avec une princesse, des dragons et des spectres. Mais c'est aussi une histoire vraie, la vôtre, et celle de votre fille, Pénélope. Pénélope, c'est un triple projet en fait. Un projet thérapeutique, un projet de voyage en famille et un projet de film. Trois projets très différents, peut-être même qu'on pourrait les estimer un peu contradictoires les uns avec les autres. Comment est-ce que vous avez pu les mener de front sans qu'ils se perturbent l'un l'autre? C'est compliqué, sûrement, de filmer un proche.
Le projet initial, c'était vraiment un projet thérapeutique. Donc, c'était emmener Pénélope à la rencontre de chamans de Sibérie, à la frontière russe, chez les Tsatsan, qui sont il y a des familles nomades qui sont en voie de disparition, mais qui ont une pratique du chamanisme qui, paraît-il, est très pure et qui a échappé à l'extinction, à la volonté communiste de supprimer...
Normalisation de ses croyances.
Voilà, donc il y a toujours eu une survivance de ce chamanisme qui a été transmis de père en fils ou de père en fille, parce que le chamanisme n'a pas de sexe. Donc c'était vraiment l'idée d'emmener Pénélope et d'entendre une autre civilisation par rapport à sa maladie, d'avoir une autre écoute, d'autres échos. Et aussi, ce que je trouvais intéressant, c'est que là-bas, souvent, les personnes différentes sont considérées comme des personnes ayant un accès particulier à d'autres compréhensions irrationnelles, ce qui n'est pas du tout le cas en France. Donc, le projet initial, c'était ça. Mais je n'avais pas d'argent pour mener ce projet. Et donc, je me suis dit que le cinéma serait peut-être un moyen d'allier ce projet thérapeutique à celui d'un film.
Qu'est-ce qui vous a mis sur la piste de ces chamans-là, précisément, ces chamans de Sibérie? Il y a d'autres lieux de la Terre où peut-être les cultures chamaniques sont encore présentes, je pense à l'Amérique du Sud. Qu'est-ce qui vous a particulièrement mis sur la piste de ces chamans de la taïga?
J'ai lu en 2009 un livre de Rupert Isaacson, qui est une personne spécialisée dans le chamanisme sibérien et qui a un fils autiste et qui a emmené son fils en Mongolie. Il a écrit un très beau livre qui s'appelle The Horse Boy. J'ai lu son livre, j'ai rencontré cette personne et il m'a initié au chamanisme et il m'a donc donné les contacts de ses familles dans la taïga.
Pénélope, c'est donc un road movie dans cette taïga et dans ces paysages somptueux. C'est un film qui joue à plein du contraste entre ces grands espaces et puis les murs qui enferment la conscience de Pénélope. Mais pour autant, ça n'est pas un film sur l'autisme. C'est un film sur le désir du dehors, en fait. Peut-être même aussi sur la nature insaisissable de l'esprit. C'est ça le sujet du film?
Je crois que mon exigence, en tout cas, ça a été d'essayer de filmer Pénélope comme un personnage. Et j'avais à l'idée sans cesse l'image de Lucky Luke. De Lucky Luke sur son cheval, le Lonesome Cowboy des steppes et des montagnes. Et c'était quelque chose pour moi de très important de filmer Pénélope comme un personnage de fiction. C'est-à-dire comme un être exceptionnel et non comme une personne avec un handicap. Et donc de renverser ainsi le cliché peut-être d'associer une personne différente à une volonté d'information qu'on aurait envie de transmettre sur la maladie, sur le handicap et du coup de stigmatiser cette personne. Donc là l'idée c'était vraiment de regarder Pénélope comme un personnage de fiction, comme un héros, comme une actrice.
Comment se comportait Pénélope avec ses chamans? enfin, vous qui avez une grande complicité avec elle, on la voit bien sûr à l'écran, mais on ne devine pas vraiment ce qu'elle ressent au fond d'elle-même. Et elle ne semble pas du tout effrayée, en fait, par ses rituels, par ses cérémonies. On a même l'impression qu'elle a une grande compliance, finalement, comme disent les médecins, au traitement qui lui est proposé, qu'elle va vraiment dans le sens de ces rituels qui lui sont proposés. Vous l'avez ressenti ?
Oui, c'était assez étonnant parce que les chamans ressemblent parfois à des êtres très monstrueux, bestiaux, avec des fourrures, des clés, des...
Ils rentrent en transe.
Oui, ils peuvent faire très peur. Ils sont toujours assistés par des assistants qui sont là pour cantonner et gérer la violence possible qui peut émaner de ces transes. Et ils habitent des esprits animaux qui peuvent faire peur, qui sont des esprits loups, des esprits violents. Et elle a toujours accepté les cérémonies avec une grande simplicité. Comme si finalement, pour elle, ces chamans étaient ses amis, ou elle ne se posait pas la question de leur étrangeté comme nous. On pourrait se la poser avec notre esprit très rationnel et en quête de repères. En fait, elle accepte facilement ce qu'on lui propose.
Et est-ce que, on en a un petit peu parlé en préparant ce plateau il y a quelques minutes, est-ce que Pénélope était consciente que vous la filmiez ? Est-ce qu'elle jouait ?
Alors c'est une question difficile parce que ça veut dire que je réponds à sa place et je ne sais pas ce qu'elle en pense, mais plusieurs fois pendant le tournage elle a dit coupe et c'était toujours dans des moments très intimes où je me posais moi aussi la question de la légitimité de la filmer à ce moment-là. Il y a une séquence dans le film où je lui donne des médicaments et elle était fatiguée, c'était la nuit, c'était compliqué. Et d'elle-même, elle a dit « coupe ». Et on a tous éclaté de rire et on lui a dit « mais tu es géniale, Pénélope, tu comprends tout ». Et à ce moment-là, elle prend son pouce et elle nous regarde. Donc elle, c'est une petite fille qui perçoit tout du monde, mais dont la difficulté est dans la retransmission des informations.
La maladie précoce, je crois qu'elle est intervenue très, très tôt, vers l'âge de 2 ou 3 ans. La maladie de Pénélope, vous avez écarté de votre travail de réalisatrice. Mais en même temps, c'est Pénélope qui vous ramène à ce métier, à cette pratique de la réalisation avec ce projet. D'autres projets peut-être aujourd'hui, en ce moment, d'autres projets de films ?
Oui, 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 d'autres projets. Pendant les 7 années où j'ai arrêté de faire du cinéma, j'ai monté une institution expérimentale pour les personnes avec autisme. Et donc ça résonne très fort en moi, le film de Régis Audert sur l'institution et sur la légitimité de l'institution. Et donc voilà, j'ai arrêté le cinéma et là en effet là, de la filmer en Mongolie, ça a été pour moi aussi un passage, ça a été accepter Pénélope telle qu'elle est, comme un être parfait, justement comme un personnage et pas comme une personne avec un handicap. Et c'est pour moi le retour au cinéma. Et là j'ai un projet de long métrage de fiction qui s'appellerait Freaks et qui serait autour de tout ce que la société qualifie de monstres, donc autour de ces monstres, mais de ces monstres qu'on aime.
Sans hommage particulier à Todd Browning,
si.
Évidemment, si. Si, à contre-pied du Freaks de Todd Browning.
Ou plutôt dans la lignée totale de Todd Browning, avec un désir d'être vraiment, de faire l'éloge des monstres en fait.
Au plus près de ceux que les normopathes n'acceptent pas ou ont du mal à reconnaître. Donc pour ce prochain projet, on aura le plaisir à le voir, peut-être pour une prochaine édition du film Marseille. Merci beaucoup Claire Doyon d'être passée sur ce plateau.
Merci.
Je rappelle que votre film Pénélope est projeté demain 7 juillet à 19h30 à La Criée dans la petite salle et sera de nouveau projeté dimanche 8 juillet à 19h30, mais cette fois-ci aux Variétés. Merci beaucoup.
Merci.
On va maintenant accueillir la chronique de Cinébé, Philippe Bérard, Bernard Favier, On va rester d'ailleurs un peu dans le ton et sur le sujet de notre conversation autour de cette idée de l'enfermement et de dépasser l'enfermement, puisque je crois que vous êtes allé voir « Don Hospital », un film de Nicolas Greyhalter.
Oui, effectivement, depuis 2-3 jours, on est en plein hôpital. On voit beaucoup de films autour de la folie, autour de la psychanalyse, etc., de l'autisme. Et là, alors, il s'agit d'hôpital, mais il s'agit quand même de toute autre chose. Effectivement, Nicolas Greyhalter filme un des plus grands hôpitaux d'Europe, qui s'appelle donc le Donospital, le Danube Hôpital. Ce qui est très intéressant dans le film, c'est qu'il ne prend pas la distance normale entre les patients, entre la salle où les gens déjeunent, ou bien l'envers du décor. Tout est filmé de façon,
équivalente.
Ouais, c'est ça. Et à cause de ça, ou grâce à ça plutôt, il n'y a pas la distance. Et le fait qu'il n'y ait pas la distance fait que le film prend vraiment du corps. Pour moi, le premier film qui est en compétition internationale qui m'a vraiment bouleversé. Enfin, où il y a vraiment de la chair filmique, d'une certaine façon. On est sur des grands plans, des grands plans très larges, et dans un hôpital qui est très très grand. Donc on est comme ça amplifié, mais amplifié dans un monde qui est lui-même robotisé, où tout se fait avec beaucoup de robotisation, etc., etc., et où finalement les gens parlent assez peu d'autre chose que de cette matrice, de cette espèce d'organe où on peut voir tous les sous-ensembles, mais effectivement de façon un peu pas hasardeuse, mais on va passer de la salle où les gens mangent à un moment où quelqu'un va découper minutieusement de la cervelle. Enfin, pas de distance. Et ce fait qu'il n'y ait pas de distance, pour moi, est très très important dans le film.
Alors moi, j'ajouterais que ce qui est très impressionnant, c'est de savoir que ce réalisateur dit qu'il traite chaque plan individuellement comme une photographie. Ça veut dire qu'il individualise le plan comme si c'était une photo, et comme si c'était la photo, comme on fait le portrait de quelqu'un. Et je pense que là, il y a une démarche qu'on connaît un peu avec le système de pardon, mais je crois sincèrement que c'est un postulat qu'il tient pendant tout le film. C'est réalisé de cette façon, le plan est individualisé comme si c'était une photo, et deux, c'est un plan large et un plan fixe que lui signale comme étant un plan universel. Et moi, je suis assez d'accord avec ça, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun mouvement de caméra, ce sont les éléments qui sont devant nous qui bougent. C'est-à-dire, c'est presque la perfection du cinéma. Mais, moi, j'ai un petit ajout à faire, c'est que le film se déroule pour moi comme un immense film de science-fiction, parce qu'il n'y a aucun pathos, il n'y a rien qui soit relié entre le patient et les toubibs. Ce que vient de dire Philippe est l'exacte vérité, c'est-à-dire qu'on passe d'un étage à un autre, l'hôpital est montré par tranches, on assiste de la naissance à la mort, en fait, et tout est dit de cette façon en rentrant dans chaque étage, mais sans qu'il y ait de préférence. C'est-à-dire que tout est à peu près mis à égale distance. Rappelons une dernière chose, c'est que ce cinéaste est le réalisateur qui a réalisé un film qui s'intitule
Notre pain quotidien,
et qui était présent ici en 1999 avec un film qui s'intitulait Pripyat, qui était l'histoire d'une ville contiguë
à côté de Tchernobyl.
Un
film dont je crois comprendre qu'il vous a donc particulièrement plu. On peut le voir encore, Don Hospital ?
Oui, on peut le revoir le dimanche 8 à 16h15 aux Variétés. Je conseille donc au public d'y aller très vite.
Alors, on aurait eu beaucoup de plaisir d'accueillir Nazim Djemaï pour son film À peine ombre, mais semble-t-il, il a oublié le chemin de notre plateau radio. Donc tant pis, je dis juste que ce film est un très beau film à propos de cette clinique de la Borde, d'un établissement psychiatrique. On a beaucoup parlé de psychiatrie et d'enfermement au cours de ce plateau, mais un endroit justement qui évite totalement l'enfermement, un endroit ouvert où finalement tout au long de ce film on finit par ne plus très bien distinguer qui sont les psychiatres, qui avouent d'ailleurs très bien eux-mêmes avoir un petit vélo dans la tête, et qui sont les patients qui ont une connaissance quasiment encyclopédique de la psychiatrie. Donc un film de Nazim Djemai qui était présenté hier et aujourd'hui, qu'on ne peut plus revoir dans le cadre de ce festival international du documentaire, mais on espère le revoir bientôt dans les salles obscures. On arrive bientôt au terme de cette émission, juste le temps d'entendre bien sûr la chronique de Thomas. Thomas qui voit chaque jour des films en provenance d'Orient et d'Asie. Bonjour Thomas.
Bonjour. Alors là, on ne sort pas de la prison, de l'hôpital, puisqu'on repart dans une prison japonaise cette fois-ci, avec Koshikei. Koshikei en français, La pendaison, réalisée en 1968 par le japonais Nagisa Oshima et présentée dans le cadre des écrans parallèles Les fils du pouvoir. Alors c'est un film qui se passe dans sa grande majorité dans la reproduction du petit bâtiment des prisons japonaises où l'on exécute les condamnés à mort. Condamnés à mort qui au Japon le sont par pendaison. Hein. C'est la seule condamnation à mort qui est reconnue là-bas. Alors l'histoire...
Je croyais que c'était le sabre et le seppuku, mais ça a dû évoluer entre...
Quelques siècles, effectivement, c'était comme ça. Maintenant, on est passé à autre chose. Alors, l'histoire, elle est inspirée d'un fait divers réel, hein, et elle est assez simple, entre guillemets. C'est un jeune Coréen, qu'on dénommera R dans le film, à la lettre R, qui est pendu au début du film pour ses crimes, à savoir deux meurtres de jeunes filles avec viol. Et manque de chance, il va survivre à sa pendaison et se réveiller amnésique. Sauf que pour l'exécuter à nouveau en respectant la loi, il faut absolument qu'il se reconnaisse comme coupable de ce pourquoi on l'a condamné, puisqu'on ne peut pas condamner à mort quelqu'un qui ne reconnaît pas avoir commis des crimes. Voilà, c'est en tout cas le pitch de départ. Alors tout le personnel présent dans ce petit bâtiment, les officiers de la sécurité, un médecin, un prêtre, un procureur aussi de la République, enfin de la, en tout cas de la justice japonaise, va rejouer devant R sa vie et ses crimes, afin de lui permettre de se souvenir de ce qu'il a fait. Ce qui fait que très vite, on passe d'une équipe chargée d'exécuter la peine de mort à une vraie troupe de théâtre. Et nous, on regarde un film qui est en fait la mise en scène d'une pièce de théâtre. Donc il y a vraiment pas mal de niveaux de lecture dans la pendaison. Et l'un d'eux qui est intéressant, c'est qu'on se retrouve dans une situation qui est totalement absurde, avec des officiers de police chargés de jouer des jeunes filles en pleurs pour recréer les jeunes sœurs de R, ou l'un des prêtres qui va jouer l'une des victimes du viol. Et ensuite, à mesure que le film avance, on a un retournement total des rôles, avec les représentants de la loi qui jouent les meurtriers, et le meurtrier, R, qui va questionner ses bourreaux sur la légitimité de son exécution, puisqu'il ne se souvient pas de ce qu'il a fait, et plus ça va, plus il s'éloigne en fait de ce qu'il était réellement avant son exécution. Et alors qu'on devrait revivre les crimes de R, on vit une version un petit peu alternative de son passé, un peu comme si on revenait à un embranchement de sa vie et qu'on choisissait une autre route. Et sur cette route, c'est en fait le pouvoir, celui de la justice, avec un grand J, qui va se chercher une légitimité. Et ce qui fait que les représentants de cette justice, ils vont de moins en moins se focaliser sur les éléments du procès de R, nécessaires pour qu'ils retrouvent la mémoire, que l'exécution puisse avoir de nouveaux lieux, et ils vont s'embarquer malgré eux dans leur propre procès. Puisqu'on apprend, par exemple, que la plupart des membres de cette équipe ont participé à la guerre de Corée, toute récente, et qu'ils y ont tué beaucoup de personnes. Et pour souligner l'absurdité de cette situation, le film bascule dans une seconde partie dans la fantasmagorie un petit peu à plus totale. L'équipe se met à avoir des visions, on voit apparaître la grande sœur imaginée de R, qui est en fait l'incarnation des valeurs de la résistance coréenne lors de la guerre et qui milite pour la réunification. Et voilà, à ce niveau-là, entre parenthèses, on se rapproche un petit peu, je trouve, des films de Takeshi Kitano, qui aime bien jongler entre cette opposition réelle-imaginaire. Voilà, tout ça fait qu'à la fin, on se demande si ça a encore un sens d'exécuter R. La frontière entre criminels et représentant la justice a presque disparu, et les dialogues eux-mêmes deviennent un petit peu absurdes. Vers la fin du film, R demande est-ce que c'est mal de tuer. Le prêtre lui répond bien sûr, c'est mal de tuer, et lui il répond innocemment, et pourtant vous voulez quand même m'exécuter. Voilà, on arrive là en fait, on perd nos certitudes, on ne sait plus à qui donner raison, on prend parti des fois pour R qui a pourtant commis des crimes atroces, on est aussi perdu que lui. Et donc la pendaison, c'est un film qui repousse un peu les frontières de la logique. On a tous une idée un petit peu assez arrêtée, hein, sur ce que c'est la justice, sur qui sont les gentils et les méchants, pour caricaturer. Et Oshima nous montre que l'absurde, c'est pas aussi simple que ça. Donc vraiment, allez voir ce film, foncez-y.
La pendaison de Nagisa Oshima, on peut le revoir encore dans le cadre de ce film.
Encore une seule fois, lundi 9 juillet à 13h, et c'est aux variétés.
Merci aux participants de cette émission, Régis Sauder, Claire Doyon. Merci à tous les chroniqueurs que vous retrouverez demain à 18h pour le prochain Filmag qui sera animé par Marc Voiry avec comme invité fil rouge Lamine Amar Rodja, le réalisateur de Demande à ton ombre, un film à propos de l'Algérie ou de pourquoi il n'y a pas eu de révolution en Algérie. Adrien Bukowski était à la console. La suite des programmes sur les 3-8, le Worldwide, enfin, il fait beau, paraît-il, ils sont au Théâtre de la Mer et ce soir, paraît-il, la soirée sera couleur jazz. Tous les plateaux du FID sont à retrouver sur radiogrenouille.com. Merci à tous.
Un cinéma qui toujours innove, qui expérimente et qui soit le reflet de son temps.
CD as a character within the movie. Now
would it say? Vous tournez très vite, je crois. En général, assez vite. Oui. Moi, je trouve pas. Je trouve que les autres, ils tournent assez lentement.